direction palestinienne. Deuxième grand titre de l'actualité, la Côte d'Ivoire. Plusieurs centaines de Français en provenance d'Abidjan sont attendus aujourd'hui encore à Roissy. Deux avions gros porteurs doivent s'y poser dans la soirée. En Irak, les combats continuent à Fallujah. L'armée américaine affirme qu'elle contrôlera la ville d'ici samedi, mais elle reconnaît la perte de deux hélicoptères. Les cérémonies du 11 novembre, avec très peu de survivants de la Grande Guerre cette année, et pour cause, les derniers poilus ont tous plus de 105 ans et ils ne sont plus que 15 en tout. Un instituteur à la retraite mis en examen et troué à Dinan, dans les Côtes d'Armor. Il aurait reconnu des dizaines d'agressions sexuelles sur des enfants. Cet instituteur avait enseigné pendant plus de 30 ans dans une école de Léon, près de Dinan.
La Bourse, avec EasyJet, compagnie aérienne à tarif réduit en France et en Europe.
La Bourse de Paris qui est en hausse, Antoine Verlin.
Eh bien oui, Claire, la journée est dépourvue d'indications économiques, mais les investisseurs se focalisent sur l'actualité des valeurs, et comme celle-ci est plutôt favorable, eh bien la tendance est à la hausse. Le CAC 40 reprend 0,92%, il remonte à 3819 points, avec un volume d'affaires finalement assez étoffé en ce jour férié, puisqu'1,6 milliard d'euros ont déjà été négociés. Côté devise, eh bien l'euro fléchit, il abandonne 0,71% à 1,29$. Voilà, je vous rappelle que le CAC 40 est bien orienté, plus 0,93% à 3820 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Merci Antoine. On termine avec l'arrivée provisoire du Quintet Plus. 7, 15, 10, 3 et 12. Vous écoutez France Inter, il est 14h04. Il est donc grand temps de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un lieu de mémoire autour duquel se déroulent aujourd'hui les cérémonies du 11 novembre, les monuments aux morts.
Lardy Gabriel. Le gendarme Victor. Niro lui. Mayan Émile. Massica Armand. Masson Sylvain.
Ans d'histoire. Il y a 86 ans, le 11 novembre 1918, à 11h du matin, sur un front de 800 km de long, une sonnerie de clairons annonçait la fin de la guerre la plus meurtrière de l'histoire de France. Depuis ce jour, tous les 11 novembre, à la même heure, devant les monuments aux morts, les survivants de la Grande Guerre venaient rendre hommage à leurs camarades disparus entre 1914 et 1918, quelque part entre les Vosges et la mer du Nord. Quand on voyait ces anciens combattants, de plus en plus vieux et de moins en moins nombreux, on oubliait parfois qu'à l'époque, la plupart d'entre eux n'avaient pas 20 ans, et que c'était aussi l'âge de ces 1 400 000 jeunes Français, morts sur la Marne, à Verdun, en Champagne ou sur la Somme. Aujourd'hui, il n'y a plus que 15 survivants de la Grande Guerre, et leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants seront bientôt seuls à commémorer le 11 novembre. Jusqu'au jour où on aura peut-être oublié pourquoi il y a tant de noms gravés sur les monuments aux morts de toutes les communes de France. France Inter, Alain Passerelle, le 11 novembre 1999.
Un monument aux morts parmi d'autres. Nous sommes à Fonsorbe, à 20 km au sud-ouest de Toulouse. Les anciens du village n'ont pas connu la guerre de 14. Ils sont nés pour beaucoup au moment où l'on érigeait ces monuments aux morts. Mais les cérémonies du 11 novembre font partie de leur mémoire collective.
Autrefois, on ne loupait pas les 14 juillet et le 11 novembre en tant que gosse dans l'école primaire de Fonsorbe. Et on venait en cortège ici pour le jour du 11 novembre et du 14 juillet. Mais surtout le 11 novembre. Chacun avait son petit bouquet.
Ils posent des fleurs. Parce qu'il y en a, ils ont voulu tuer les autres parce qu'ils voulaient tuer la, ils voulaient que la France soit envahie, mais ils l'ont empêché. Donc ils sont contents. Donc ils leur remercient, quoi, en donnant des fleurs, tous les 11 novembre.
Ils nous ont enfin rendus l'Alsace et la Lorraine. Eux qui raillaient la France et qui disaient jamais.
Annette Becker, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, spécialiste de la guerre de 14-18 et auteur de plusieurs livres, dont un très beau sur les monuments aux morts. Monuments aux morts autour desquels aujourd'hui se déroulent les cérémonies du 11 novembre, et en l'absence d'ailleurs pour la première fois des anciens combattants de la Grande Guerre, puisqu'il n'en reste plus que 15 qui sont très âgés et qui ne peuvent plus se déplacer. Que signifie en revanche le 11 novembre pour un enfant comme celui que l'on vient d'entendre? Est-ce que c'est autre chose qu'un jour de congé?
J'ai trouvé très intéressant qu'il ait parlé des gerbes, des fleurs, et qu'il ait dit que c'est parce qu'on était content que la guerre soit finie. Parce que quelque part, il a raison. En fait, c'est un contresens aussi, puisque si on a érigé tant de monuments aux morts, c'est qu'on était horriblement triste et qu'on était dans un moment de deuil épouvantable après la mort de tant de millions d'hommes à travers le monde et 1 400 000 en France, comme vous l'avez rappelé. Mais qu'ils disent qu'on était content, je crois qu'on voit bien le décalage désormais entre ce souvenir qu'on avait gagné la guerre et le souvenir du moment qui était que malgré la victoire, l'horreur, c'était le nombre des morts.
Alors, pour eux, pour ces enfants, hein, c'était certainement l'équivalent de ce qu'était la guerre de 100 ans pour les combattants de 14-18, c'est tellement loin. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, au fond, les monuments aux morts dont on va parler sont ceux qui ont été construits après la guerre de 14-18. Pourquoi? Il n'y a pas eu de monuments aux morts avant?
Si, il y a eu des monuments aux morts avant, mais en fait, c'est quelque chose qui est quand même assez récent dans l'histoire. Les monuments aux morts ont été construits pour la première fois au 19e siècle. C'est probablement pendant la guerre de Sécession que pour la première fois, on a construit
aux États-Unis,
de véritables monuments aux morts. Il fallait une énorme guerre, une guerre presque totale, où tant de gens mouraient, pour qu'on y pense. Et on pense, c'est aussi une guerre où les citoyens sont engagés. Avant, il y avait des monuments aux généraux et puis les soldats étaient perdus. Désormais, et ça c'est l'héritage de la Révolution française, ce sont les Français qui s'engagent dans une guerre et ce sont les Français qui meurent et qui sont donc remerciés comme cela. Et pour la première fois en France, c'est donc pendant la guerre de 70-71 qu'on érige de vrais monuments aux morts avec des noms. C'est ça qui est très important. On individualise ceux qui sont morts dans la guerre.
Alors si ceux de 1914 sont plus nombreux, je parle des monuments, c'est aussi parce que les morts de 14-18 étaient infiniment plus nombreux. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle on a pensé à construire des monuments aux morts. Écoutez justement un autre historien que vous connaissez bien, Antoine Praud, au micro de François Celleron en 1996.
Si vous mettez les morts de 14 les uns à côté des autres, vous les imaginez, j'ai fait ce cauchemar une fois, mais je le trouve éclairant. Vous rangez, allongez côte à côte tous les morts de la guerre de 14-18. Hein? Un mort, un mort, un mort. Rien que pour les morts français, il faut 700 kilomètres. La collectivité a contracté par rapport à ces 2,5 millions de morts une dette tellement importante qu'on ne pourra jamais la réparer. Elle reste, c'est une sorte de dette qui est inextinguible. C'est quelque chose qui est inoubliable et qui ne doit pas être oublié. C'est ça que le monument aux morts dit.
Extraordinaire, Annette Becker, l'image qu'emploie Antoine Praud, cette espèce de cimetière de 700 kilomètres de long. Et encore, il n'est question que des morts français, hein, 1 400 000 morts français. J'ai calculé aussi d'ailleurs que pour la simple lecture de la liste des noms des morts de la 14-18 qui est inscrite sur tous les monuments aux morts de France, il faudrait à peu près plus d'un mois pour lire leurs noms.
Tout à fait, et c'est encore plus impressionnant si on multiplie ça par le nombre des morts dans le monde entier, 10 millions de morts.
C'est ça, comme disait Antoine Praud, c'est au fond une dette dont on essaie de s'acquitter en construisant des monuments aux morts.
Je pense que pour certains, c'est une dette. Pour d'autres, c'est vraiment l'endroit où l'on peut faire son deuil. Et là, il est tout à fait dans l'esprit de Clémenceau qui disait il faut faire quelque chose pour nos grands morts, avec l'esprit que vraiment, ils étaient morts pour la France. Ils étaient, et c'est cet idéal républicain, cet idéal du consentement à avoir fait quelque chose pour la bonne cause, pour la France, pour l'universalité des valeurs de la France. Et ça, c'était quelque chose qui avait une force extraordinaire en 1918.
Et on a construit quand même aussi d'autres choses que les monuments aux morts des communes qui figurent dans votre livre. Il y avait les grands cimetières de militaires, qui avaient d'ailleurs même avant 14-18. Il y a l'ossuaire de Douaumont. Il y a tout simplement le tombeau du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Des soldats inconnus, d'ailleurs, il y en a dans votre pays, Annette Becker. Les monuments, ça aussi, c'est des monuments aux morts.
C'est un aspect extrêmement important et qui montre l'ampleur de la perte, c'est qu'on a inventé, après la Grande Guerre, une série de formes commémoratives. On commémorait partout et tout le temps. On parle des 36 000 monuments des communes, mais il faut multiplier ce chiffre au moins par 5 ou 6. N'importe quelle entreprise, n'importe quelle école, n'importe quelle gare, vous avez un monument aux morts qui rappelle ceux qui vivaient là et qui sont désormais disparus. Alors vous avez tout cet ensemble. Les monuments aux morts sont des tombeaux vides, des cénotaphes, et on les fait donc revivre à l'endroit où ils vivaient, leur commune, leur lieu de travail,
cimetière militaire qui est sur
leur
place,
église.
À l'endroit où ils sont morts.
Bien
là,
sûr.
On ramène, si je puis dire, les morts chez eux avec ces monuments aux morts.
On les ramène chez eux. À l'inverse, sur les champs de bataille, on les commémore où ils sont tombés. Quant aux soldats inconnus, c'est rappeler que tant de ces morts ont disparu, coupés en morceaux par les obus, et que un va être le symbole pour tous ceux qui n'ont plus de tombe pour aller se recueillir.
Alors ces monuments aux morts des communes de France ont été, quand ils ont été construits à partir des années 20, ont été une aubaine bien sûr pour ceux auxquels on les a commandés.
Ici ça sera très bien, oh oui, face au large.
Ça va bien pour vous, non? La sculpture.
Oh, l'âge d'or, mon cher ami, l'âge d'or. Jamais vu ça depuis les Grecs, depuis les cathédrales. Même ceux qui ont une main de merde ont de la commande. Vous vous rendez compte? Un monument par village, on fournit pas. 35 000 communes par 300 sculpteurs. Tout le monde veut son poilu, sa veuve, sa pyramide, ses marbres. La ronde bosse, le bas-relief, la lettre, alors là, tout ça ronfle comme une usine. Mieux que la Renaissance, mon cher. La résurrection.
Grâce à nos morts.
Grâce à nos morts. Merci à eux.
C'était un extrait du beau film de Bertrand Tavernier, La vie et rien d'autre. C'est vrai, vous l'écrivez d'ailleurs, Annette Becker, les monuments au bord ont fait le bonheur d'un certain nombre de corporations.
Bien sûr, pour les sculpteurs et surtout pour les entrepreneurs en pompe funèbre d'ailleurs, hein, puisqu'il s'agit de tombes vives, de grands tombeaux, eh bien, ça a été une construction extraordinaire. L'âge d'or, comme dit le sculpteur du film.
Sculpteurs plus ou moins connus, les grands sculpteurs.
Hein. Alors, il y en a bien sûr qui ont été très,
Mayol,
très connus.
Mayol a sculpté des monuments aux morts.
Mayol, par exemple, Bourdel, et puis d'autres sculpteurs qui auraient peut-être été moins connus, mais qui sont devenus des grands sculpteurs de monuments aux morts. Je pense à Kivik en Bretagne, aux frères Dardet qui ont fait des monuments aux morts formidables. Je voudrais dire simplement que le cynisme qu'il y a dans le film de Tavernier, le cynisme remarquable dans ce film, est quelque chose d'un peu anachronique. On n'avait pas à l'époque ce cynisme. Mmh. On faisait les choses avec vraiment une énergie et qui était l'énergie du deuil et de la tristesse. Mmh. Il ne faut pas placer nos idées d'aujourd'hui. Alors bien sûr que certains entrepreneurs se sont frottés les mains, c'est évident. Mais l'ensemble des gens qui travaillaient à cette érection n'avaient pas ce cynisme.
Quand est-ce qu'on a commencé, parce que le premier monument aux morts ne date pas du 12 novembre 1918, Annette Becker, quand est-ce qu'on s'est décidé, qui a décidé de construire des monuments aux morts? Est-ce que c'est une initiative de l'État ou des communes?
C'est une initiative, je dirais, des gens. C'est une initiative de la base et qui a commencé pendant la guerre. Dès 1914, après les horreurs et les pertes immenses de l'été 14, il y a des gens qui ont commencé à réfléchir. Que faire? Il y a des listes qui ont circulé, des listes qui ont été apposées sur les portes des mairies ou dans les églises, dans les paroisses. Et on a considéré que ce papier allait disparaître. Donc on a cherché des formes et très rapidement, l'idée du monument aux morts, que l'on connaissait par la guerre de 70, est venue à la surface. Et tout de suite, dès novembre 18, dès décembre 18, on le voit dans les comptes rendus des conseils municipaux, on dit, la première chose que l'on va faire, c'est ériger un monument aux morts. Donc très souvent, la décision est prise par le conseil municipal, et ensuite, il faut trouver de l'argent, et là, tout le monde s'y met. Mais l'État a un rôle extrêmement, extrêmement faible.
Et toutes les communes, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a eu 35 000 ou 36 000, il y a encore 36 000 monuments aux morts, ou 35 000, enfin, autant de communes que de communes françaises.
Pratiquement pas de communes sans monuments. D'ailleurs, Tavernier le montre de façon, une fois de plus, amusante et presque cynique. Hein, ce petit hameau qui voudrait récupérer des morts parce qu'il n'en a pas. Vraiment, toutes les communes, alors il y a eu un effet d'entraînement, bien sûr, hein, mais c'était aussi, on était dans la lignée de la statuomanie dont parle Maurice Aguilon de la Troisième République, et penser à quelque chose de fort dans l'espace public, en France, c'était forcément penser à un monument. Ce n'était pas forcément le cas dans les autres pays. Il y a eu des monuments, mais il y a eu d'autres choses. En France, c'est toujours monument.
Alors, autant de monuments que de communes, ils célèbrent tous la même chose, mais ils sont tous différents, du plus simple jusqu'au monument patriotique ou funéraire, en passant par une catégorie de monuments aux morts, très peu nombreux, mais qui ont beaucoup fait parler d'eux. France Inter, Fabrice Drouet, le 11 novembre 1990.
Quelque part dans la Creuse, sur le plateau des Mille Vaches, devant le monument aux morts de Jean Siou, un petit village, la polémique pourrait bien repartir, car l'édifice n'est pas tout à fait comme les autres. À commencer par l'inscription « Maudite soit la guerre », gravée dans la pierre au-dessous de la longue liste des hommes du village disparus en 14-18. Un édifice qui risque de créer encore des conflits pour ce 11 novembre. Philippe Becquia.
Agacé par quelques débordements d'une manifestation pacifiste le 11 novembre dernier, le maire a interdit cette année tout autre rassemblement que celui des cérémonies officielles. Une décision évidemment contestée. Tout à l'heure, deux cortèges risquent donc de se télescoper devant la stèle. La Libre Pensée et les Verts ont donné rendez-vous à tous les républicains, les laïcs et les citoyens épris de paix. Le maire a invité ceux qui pensent qu'un groupe n'a pas à s'approprier le monument pour un combat partisan. Il pourrait donc y avoir du monde, et paradoxalement, c'est peut-être à Jean Siou que le 11 novembre sera le moins paisible. Pour France Inter, Philippe Becquia, Radio France Creuse.
Alors je ne sais pas comment se sont passées aujourd'hui les cérémonies du 11 novembre à Jean Siou, Annette Becker, 14 ans après cette archive. Alors ce type de monument pacifiste, au fond, c'est assez rare quand même. Hein.
C'est très intéressant que ce soit rare. Parce que s'il y a bien une force énorme au moment où sont construits les monuments, c'est bien le pacifisme. Mais s'il y a très peu de monuments où on a écrit « Que maudite soit la guerre », il y en a une dizaine en France, cela se comprend très bien. C'est qu'il y avait d'une part le fait qu'on voulait désormais militer pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre. Et on pouvait être pacifiste, bien sûr. Mais par ailleurs, ce n'était pas le rôle des monuments. On les voyait vraiment comme l'endroit où l'on allait pleurer ce que l'on avait perdu. Et les rendre pacifistes, c'était quelque part dire qu'ils étaient morts pour rien.
Oui, d'autant
et
plus
ça,
qu'il
c'était
devait y
insupportable.
Avoir, il devait y avoir des gens qui se sont battus avec conviction, qui sont morts avec patriotisme sur le front. Ça devait être assez difficile de mettre... Parce qu'au fond, c'est ça la propriété du monument aux morts, c'est qu'on retrouve sur la même stèle, on retrouve des noms de gens d'origine extrêmement différents.
Bien sûr.
Alors, justement, je l'ai cité à l'instant, et ils sont beaucoup plus nombreux, il y a ce qu'on appelle aussi les monuments patriotiques. Ceux-là, au-dessus, on voit un poilu, il y a une statue. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, sont des simples stèles. Ça, c'est les plus simples, sont des simples stèles. On ne voit pas grand-chose. Il y a les noms. Hein. Dans quel ordre, d'ailleurs, mettons les noms des disparus? La plupart du temps,
c'est la citoyenneté qui l'emporte, hein, et donc c'est par ordre alphabétique. Quelquefois, on met les officiers devant, mais c'est très très rare. La France a vraiment choisi l'ordre alphabétique. Ce qu'on a choisi aussi, c'est l'ordre chronologique. Les morts de 14, les morts de 15, voilà, ce sont les différentes possibilités. Mais en général, c'est l'ordre alphabétique sur la période 14-18 qui l'emporte.
Et puis alors, donc, pas d'emblème allégorique sur ces plus sobres des monuments. En revanche, il y en a dans beaucoup de monuments que vous mentionnez à votre livre, qu'on voit en photo, avec par exemple ce poilu au-dessus d'un monument aux morts qui tient une couronne de laurier. Il y en a d'autres qui foulent du pied un casque à pointe allemand ou un aigle impérial allemand. Ça va. Et on écrit pas seulement mort pour la France, on dit mort pour la patrie, gloire, etc. Là, c'est le monument patriotique.
Alors, il y a des monuments plus ou moins patriotiques, mais je dirais qu'ils sont tous patriotiques. Je dirais même plus, même les monuments pacifistes sont patriotiques. Parce qu'ils nous disent que la guerre est atroce, qu'il ne faut plus jamais faire la guerre, mais ils ne nous disent pas que cette guerre-là était une guerre mauvaise. Et simplement, le résultat de la guerre, ça a été l'horreur du deuil. Et je crois qu'il faut bien voir que être patriote, être en deuil et ne plus jamais vouloir faire la guerre ne sont pas forcément contradictoires. C'est pour ça que les monuments aux morts sont passionnants, parce qu'on y trouve justement tous ces aspects. Et même un poilu au sommet de son monument, il peut très bien, très souvent, y avoir des enfants qui pleurent au-dessous, des femmes qui pleurent au-dessous. Et donc c'est à la fois très patriotique, il est mort pour une bonne cause, mais c'est insupportable parce que je n'ai plus mon mari, parce que je n'ai plus mon père.
Même le lieu d'ailleurs où sont construits les monuments aux morts, ça compte selon qu'on le construit devant une église ou devant la mairie, par exemple à El Becker.
Tout à fait. fait. Alors là, il y a l'ampleur du sacré dans les monuments aux morts. Et ça, c'est un aspect, je crois, extrêmement important. Et les monuments des communes ne sont pas moins sacrés que les monuments des paroisses, des temples ou des synagogues. On voit bien ce mélange de foi en la patrie, pour certains de foi en Dieu, et tout cela est vraiment l'héritage des combattants de 14-18.
Alors les monuments aux morts sont donc des lieux de mémoire, mais aussi de rassemblement, de cérémonies, comme celle qui se déroule en ce moment dans toutes les communes de France, avec la lecture des noms gravés sur les monuments, et qui sont plus ou moins nombreux selon la taille des communes.
Au sang d'honneur 1914 et 1918. À Brassard-Jus, Ancelin-Jus, Couvercle-André, Aubry-Maurice, Allier Raymond, Arpin Gilbert, Assé Albert, Bourgois-Aigny, Bertrand Lévé, Désolé Victor,
Bourge en honneur.
Toujours émouvant cette sonnerie aux morts, Annette Becker, et la liste des noms cités et gravés sur les monuments aux morts, surtout quand en plus on voit souvent le même nom avec un prénom différent, parce qu'il y a des familles entières qui ont été décimées.
C'est quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, quand on y assiste dans les communes, où on continue cette tradition de l'appel aux morts, quelque chose de très 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 poignant. Et en effet, dans les petites communes, plusieurs frères sont morts. C'est quelque chose de tout à fait banal, et ça montre encore plus l'ampleur du sacrifice, je crois, que dans les grandes villes, où les listes sont plus longues, mais où les choses sont plus parsemées, je dirais. Dans les petites communes, c'est très 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 poignant.
Cette cérémonie, donc, qu'on célèbre aujourd'hui un peu partout en France, elle ne date pas de 1918. Vous dites même que c'est après la guerre, assez longtemps après la guerre. C'est pas devenu tout de suite un jour férié. Bien sûr, il y a eu le 11 novembre 1919, on a célébré le premier anniversaire de l'armistice, ça a été férié. En 1920, on place le soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, jour férié. Mais par exemple, en 21, on diffère la cérémonie au 13 novembre, parce que le 11 était un vendredi, et il n'était pas question que ce soit un jour chômé.
C'est très intéressant, et on voit bien, une fois de plus, le décalage entre ce moment-là et aujourd'hui. Aujourd'hui, les jours fériés, pour les moments très importants, nous semblent indispensables. Juste après la guerre, on n'avait pas cette habitude. Et les jours fériés étaient les jours religieux. Et donc, les anciens combattants, en se rendant compte que après 1920, eh bien, le 11 novembre allait quelque part être dilué, vont faire une pression très forte sur le Parlement. Ils vont être horrifiés qu'on ait reporté de 2 jours la cérémonie. Et donc, à partir de 1922, ça deviendra un jour férié. Et je dirais un jour férié très centralisateur, très unificateur. On peut dire, je crois que c'est Antoine Pro qui l'a dit le premier, que c'est la seule vraiment vraie religion civique de la République. Je crois que c'est tout à fait juste.
Cela dit, le 11 novembre n'est pas seulement français. Cette guerre a été une guerre mondiale, et des monuments aux morts, il y en a dans d'autres pays du monde, et des cérémonies du 11 novembre, il y en a dans d'autres pays du monde, Annette Becker.
Il y en a dans le monde entier, du côté d'ailleurs des vainqueurs. Du côté des vaincus, on a fait des monuments aux morts, je pense. Par exemple, à la Bavière, où il y a des monuments très très émouvants, qui sont des Pietà, très 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 souvent, des femmes allemandes qui ont perdu leur fils, comme la Vierge a perdu son fils, comme des Pietà bretonnes. Alors là, il y a une similitude. En revanche, bien sûr, on ne fête pas une défaite, on s'en doute. Mais dans tous les pays vainqueurs, on fête le 11 novembre ou un autre jour. Les Australiens ou les Néo-Zélandais.
Oui, jusqu'au bout du monde, il faut rappeler qu'ils se sont battus en France, enfin en Europe en tout cas.
Ils se sont battus en France et puis à Gallipoli, dans les Dardanelles. Et eux, ils fêtent le 25 avril, parce que c'était le jour de leur débarquement dans les Dardanelles. Et le jour de la naissance de leur nation, par ailleurs.
Et puis sur les monuments aux morts, on trouve évidemment les morts d'autres guerres qu'on a rajoutées, celles de 39-45, la guerre d'Algérie aussi parfois, qui sont généralement moins célébrées. Pourquoi le 11 novembre est-il la cérémonie, enfin et avec le monument aux morts bien sûr, la plus célébrée en France? Quelle signification ça peut avoir aujourd'hui, 86 ans après la Première Guerre mondiale?
Pour la France, c'est clair, c'est la guerre de l'unanimité patriotique. C'est comme ça qu'elle est encore vécue. Et à l'inverse aussi, je dirais que c'est la guerre de l'unanimité pacifiste d'après. Mmh. On ne voulait plus jamais faire la guerre à cause de l'horreur des souffrances de cette guerre. Et puis on l'a faite de nouveau. Et les autres guerres, eh bien, pourquoi pas la Deuxième Guerre mondiale? Eh bien, tout simplement parce que la Deuxième Guerre mondiale, c'est terminé pour la France, je dirais, dans une presque guerre civile. Mmh. Il est difficile. Quel Français on va écrire sur ces monuments aux morts? Mmh. Et pareil, bien sûr, pour la guerre d'Algérie. Et donc, c'est beaucoup plus tard que l'on va inscrire les noms sur les monuments aux morts. Et c'est quelque chose qui continue. Pensons à toutes les victimes de l'extermination de la Deuxième Guerre mondiale. C'est seulement maintenant qu'on est en train de les graver sur les monuments aux morts. On les a d'abord totalement oubliés. En 1918, on n'oubliait personne.
Est-ce que ça continuera longtemps encore? Parce que, au fond, ça ne restera plus que des noms gravés, donc tout le monde, on se souvient même plus de qui et qui se trouve sur ces monuments aux morts. Il n'y a plus que des arrière-arrière-petits-enfants maintenant pour penser à eux. Et s'y intéresse d'ailleurs, il me semble, vous me l'avez dit un jour, il suffit de voir le dernier succès du film sur la guerre de 14 qui montre que la jeunesse s'y intéresse à cette guerre.
Je crois qu'il y a un phénomène très intéressant à l'heure actuelle, qui est vrai dans tous les pays, qui est vrai en Angleterre, qui est vrai en Australie, le phénomène de la troisième, voire de la quatrième génération. C'est-à-dire que leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents sont morts dans cette guerre et ils veulent essayer de comprendre pourquoi et comment. Et ce retour se voit dans la littérature, se voit dans le cinéma, se voit dans les émissions de télévision. Vraiment, la Grande Guerre est beaucoup plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a une trentaine d'années, je crois. Alors, est-ce que ça va continuer longtemps? Ça, c'est difficile de savoir.
Merci, Annette Descaires. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Les Monuments aux Morts, Mémoire de la Grande Guerre, publié chez Errance. Puis également Les Oubliés de la Grande Guerre, republié en poche chez Hachette Littérature. À lire également le chapitre d'Antoine Prost sur les monuments aux morts, écrit pour les lieux de mémoire, publié chez Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits aussi d'une émission qui s'appelle Les lieux de mémoire, une émission de France Culture, de Françoise Céloron, qui était consacrée en 96 aux monuments aux morts, et un extrait aussi du film de Bertrand Tavernier, La vie et rien d'autre. Vous pouvez retrouver ces références, vous le savez, en contactant le service des relations.